Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres. Bonjour à tous. Donc je vais excuser quand même Patrick parce qu'il est absent, il est souffrant aujourd'hui. On lui souhaite le meilleur. Et puis, je voulais parler quand même, avant de commencer l'émission, de la rafle qu'il y avait eu au lycée Lalande le 5 juin 1944, parce que des lycéens ont été arrêtés et déportés. Et là, c'est quand même terrible. Et là, on va parler des enfants de troupes, mais quand même, un grand merci à ces lycéens qui ont été résistants. Et ils avaient 17 ans. C'était les épreuves de bac, je crois, et ils ont été arrêtés comme ça par des miliciens français. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, alors maintenant, aujourd'hui, on reçoit Denis Di Marino qui va nous parler des enfants de troupe. Alors, c'est quoi les enfants de troupe?
Oh, c'est. Il y en a qui disent que c'est une sale race. parce que ce sont des gens qui. Ce sont des jeunes qui ont très souvent suivi une scolarité depuis la sixième.
Oui, parce qu'il y a des lycées et des collèges.
Oui, il y avait des lycées, des collèges. D'accord. À l'époque. Il y avait même beaucoup mieux. Il y avait, je ne les oublie pas, parce que j'ai un ami qui est très, très intime, qui habite à Céséria et qui a fréquenté l'école Hériot. Et l'école Hériot était une école où on pouvait entrer à 5 ans.
Oh, oui. Tout petit déjà.
C'était des orphelins.
Ah oui, souvent c'était parce que
des orphelins de guerre.
Ah, oui.
Et c'était une école qui était magnifique parce qu'elle était gérée par à la fois par l'armée, donc oui, pour l'encadrement, oui, et par des bonnes sœurs.
Oui.
Pour avoir un petit peu la tendresse pour ces jeunes petits, voilà. Et ce qui fait qu'il a fait toute sa scolarité déjà à l'école Hériot, puis il a été à Autun, hein, qui est une des grandes écoles, un des grands lycées militaires, on dit maintenant, parce qu'on n'appelle plus ça une école militaire préparatoire, mais on appelle ça une école. Alors, les enfants de troupe, quelle est l'origine? Parce qu'il faut en parler. Le terme d'enfant de troupe est resté malgré l'existence de lycées militaires. On appelle toujours ça des enfants de troupe. Bon. Les enfants de troupe, c'est dans l'histoire, c'est très, très, très vieux, puisque ça date déjà de Louis XV.
C'est lui qui a commencé.
C'est lui qui a commencé.
Ah oui, il a inauguré ses écoles.
Voilà, enfin, il a inauguré une école.
Une école
déjà.
Qui était où?
Qui était à Rambouillet.
D'accord.
Hein, et petit à petit, on a vu le succès de ces écoles, parce que, en fait, c'était simplement dans le dessein de régulariser un petit peu le sort de certains jeunes. Alors pourquoi? Parce que si à l'époque, bien entendu, il y avait la noblesse qui avait le pouvoir, et les nobles, bien entendu, avaient leurs écoles pour former les enfants au domaine militaire. Mais les autres, c'est-à-dire les fils de ce qu'on appelait à l'époque, non pas des sous-officiers, mais on appelait ça les bas-officiers. Alors, je ne sais pas quel terme
oui, est
le
plus... C'est pas très joli comme terme.
Est le terme le plus péjoratif?
Oui,
mais bas et sous, oui, c'est pareil. Bon. Oui. Mais bon, est resté le terme de sous-officiers. Et ces enfants n'avaient pas d'école à proprement parler, mais étaient intégrés dans les régiments. Lorsqu'ils étaient orphelins ou autres.
Et bon, c'était... Mais quel que soit l'âge, ils étaient...
Quel que soit l'âge, ils étaient intégrés. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient une instruction qui était relativement mauvaise, à part sur le plan militaire, et qu'ils n'avaient plus le choix que de s'engager après, vraiment, à titre du régiment, dans l'armée.
Oui,
bon.
Oui.
Alors, petit à petit, cette évolution s'est faite. Saluons quand même Napoléon, qui a créé les enfants de troupe.
C'est lui,
était lui-même enfant de troupe,
oui,
d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
Et ensuite, saluons également le maréchal de MacMahon, qui, lui, a créé toutes ces écoles, petit à petit, pour essayer d'être un petit peu en osmose avec les enseignements de l'éducation nationale.
C'est ça, parce qu'il fallait leur donner quand même un peu d'éducation.
Il fallait leur donner de l'éducation. Oui, alors, donc, de son époque datent les écoles militaires préparatoires, qui était le nom de mon école, parce que moi, je ne suis pas un enfant de troupe d'Autun, non, mais je suis un enfant de troupe d'Aix.
Ah, c'était Aix-en-Provence.
Voilà.
Elle existe toujours,
Elle existe toujours.
Hein, c'est... Alors, qu'est-ce qui reste comme école?
Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, il reste le Prytanée militaire...
À la flèche,
qui est un petit peu différent, parce que
il
touche également une classe sociale un petit peu plus élevée que les autres bouseux. Voilà. Alors, il reste la flèche, il reste Autun, qui est une des grandes écoles, et qui détient d'ailleurs maintenant le musée des enfants de troupe.
Ben oui.
Qui à l'époque se trouvait...
Et c'est de cette école qu'on va parler.
Voilà. Mmh. C'est à l'époque que le musée se trouvait à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et Saint-Hippolyte-du-Fort qui a fermé il y a maintenant 30 ou 40 ans.
D'accord. Hein, c'est où Saint-Hippolyte-du-Fort?
Pardon?
C'est où Saint-Hippolyte-du-Fort?
C'est dans la campagne du Massif Central.
Ah, c'est dans le Massif Central.
C'est très isolé.
C'est dans le centre de la France, d'accord.
Dans le centre de la France. Ensuite, on a Saint-Cyr-l'École, qui était l'ancienne école d'officiers, qui est devenue maintenant une école d'enfants de troupe.
Ah oui.
Voilà. Et puis, il y a encore une que l'on oublie, deux que l'on oublie toujours, l'école de Brest, qui est à vocation navale.
C'est ce que j'allais dire, parce que c'est surtout la navale qu'on entend là-bas.
Surtout, oui,
c'est ça.
Voilà. Et ensuite, il y a Grenoble, qui est
pour les chasseurs alpins?
Non, les pupilles de l'air.
Ah, d'accord.
Qui est une très belle école, d'ailleurs, qui fonctionne très, très, très bien. De même que les autres, hein, mais je veux dire, Brest et Grenoble sont l'élite maintenant des écoles, avec bien sûr Autun et Aix, mais bon... Je ne vais pas le répéter toute la journée.
C'est ça,
hein,
voilà. Bon. C'est ça. C'est bon.
Voilà. Alors, voilà les écoles qui existent. Il y a eu effectivement beaucoup de changements, et notamment la guerre qui a apporté du changement.
Hein, oui.
La Deuxième Guerre mondiale, qui a été l'un des facteurs déclencheurs de cette restructuration un peu des écoles.
C'était un peu trop éparpillé.
Non, pas seulement, mais simplement que la France était divisée en deux parties, avec une France libre, une France dite, dirigée par le maréchal Pétain, hein, et puis une France occupée, à peu près, hein, parce qu'il y avait après une zone interdite, et puis etc. etc.
Oui.
Et bien entendu, les occupants, les Allemands, n'ont pas voulu conserver dans leur secteur des écoles militaires françaises.
Bien,
ça paraissait évident. Donc, si vous voulez, tout ça a transité. Et la propre école d'Autun, qui se trouvait en zone
occupée à l'époque,
A été transférée ici. Au camp de Tôle.
Ah, ils étaient à Tôle, oui,
ils
c'est ça.
Ils étaient à Tôle.
Oui,
ce camp de Tôle était...
C'est à Neuville.
À Neuville-sur-Ain, était un camp militaire, mais qui...
Il a été longtemps camp militaire.
Oui, mais qui ne servait que pour donner l'hospitalité au régiment qui venait s'entraîner. Il n'y avait pas de fixe, il n'y avait pas un régiment
d'accord.
là-bas.
Quand je suis arrivée à Bourg, on me parlait du camp de Tôle.
Voilà, le camp de Tôle. Après, il a servi également il a servi de prison aussi aux indépendantistes algériens. Hein, et ensuite, à certains hommes qui ont participé à l'OAS.
D'accord. Hein,
voilà, il faut connaître l'histoire un petit peu.
Hein. Bien sûr.
Et donc, ce camp a été un camp d'enfants de troupe de cette école, avec ses cadres militaires, puisqu'ils étaient de nouveau en zone... non occupés, jusque, bien entendu, au 11 novembre 1942, où les Allemands ont réoccupé la totalité de la France.
C'est ça, tout envahi. Bon,
tout envahi. Pour éviter, justement, un débarquement dans le sud de la France. Ils avaient peur de ça.
Ils craignaient ça. Oui.
Donc, voilà nos enfants de troupe. C'était d'ailleurs une très mauvaise idée de mettre une fin à cette école, parce que les Allemands l'ont fermée.
C'était stoppé,
carrément. Et c'était une très mauvaise idée, une de plus, parce qu'effectivement, les jeunes, ils étaient formés quand même par un encadrement militaire, et il n'avait qu'une idée.
C'était de partir.
C'est de prendre les armes contre les Allemands. Voilà. Donc, ces jeunes, dans la quasi-totalité, ont rejoint le maquis. Le maquis, le vrai maquis, qui était là, dans le Jura, dans le Haut-Jura, et dans l'Ain, et dans le Bugey.
Tout ça, oui.
Donc, ces gamins, parce que c'était des gamins, il y en avait de 15 ans à 18, donc c'était pas des grands, pas des adultes.
Eh ben, ils avaient déjà dans l'esprit...
Ils avaient dans l'esprit, ouais. Parce qu'ils s'étaient formés aussi. On est formés quand même à un certain patriotisme dans ces écoles.
Oui, oui. Oui, mais déjà,
sinon, elles ne marcheraient pas aussi bien.
C'est vrai.
Voilà. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour le début de notre histoire, parce que ces jeunes se sont couverts de gloire.
C'est ça.
Se sont couverts de gloire par leur mordant.
Par leur action.
Par leur action, par leur mordant, par leur abnégation aussi, il faut
c'est
le reconnaître.
Ça, oui,
hein,
oui.
Parce que beaucoup sont morts. Il ne faut pas l'oublier.
Oui.
Ils sont morts pour la France.
Oui. Hein,
et vous avez partout dans beaucoup de villages, vous avez une rue Bernard Gangloff.
Alors, qui était Bernard Gangloff ?
Alors, Bernard Gangloff était un élève de l'école d'Autun.
D'accord.
Voilà. Il était fils de gendarme. Hein. Et il avait fréquenté l'école d'Autun et donc le camp de Tôle. Et... Il s'est engagé, comme tous les autres, dans la résistance, bien entendu, avec le maquis de là.
Oui. Hein,
et il avait comme surnom le sergent Popeye. Voilà, sergent Popeye. Et le sergent Popeye a été, si vous connaissez Neuville-sur-Ain et la route
un peu, oui.
qui mène à Poncin,
oui.
Il a organisé un jour une embuscade contre les Allemands.
Il avait quel âge à l'époque ?
Oh, il avait 17 ans, je crois. Pas plus
et c'est lui qui a organisé ?
C'est lui qui a organisé, oui. Avec, bien sûr, les maquis de l'Ain aussi.
Bien
hein,
sûr.
C'était parce qu'ils avaient de l'armement. Ils avaient, bon, et lui-même...
Il avait besoin, quand même.
Il avait un gros armement
secours.
Dans
ben
son
oui,
équipe, puisqu'il
oui.
avait... Il était chef de pièce d'un bazooka. Un bazooka, alors... C'est comme un canon qui se porte à l'épaule.
Oui, c'est ça. Hein,
contre les blindés. Bon. Et lorsque les Allemands se sont retirés, commençaient à se retirer vers le nord, hein, donc cette direction Poncin,
oui.
pour rejoindre Dijon, enfin Nantua, Dijon, puis etc., etc., et revenir en Allemagne, il a organisé une embuscade qui était mitigée en succès. Hein, parce que, bien entendu, il n'avait pas toute la connaissance d'un vieux briscard.
Avec la jeunesse, il prenait peut-être plus de risques.
Voilà.
C'est ça. Il n'avait pas la notion du risque complètement.
Il a eu des succès parce qu'il a quand même réussi à, on dit le terme militaire, à allumer quelques blindés. Mais bon, mais ensuite, bien entendu, son équipe a été touchée.
Parce qu'il y a eu des représailles.
De son mort.
Ah voilà.
De son mort.
Ouais.
D'ailleurs, l'un de ses aides qui était Baril est inhumé à Neuville-sur-Ain.
D'accord.
On s'occupe de sa tombe également.
Ah oui, parce qu'elle est en déshérence.
Plus ou moins, oui.
Ah oui,
oui
d'accord.
Oui.
Ça, c'est le souvenir français.
Oui, c'est un petit peu le souvenir français, mais c'est aussi... c'est Denis.
C'est Denis.
Voilà. Et puis, comment ? Et puis, donc, il a été grièvement blessé dans l'affrontement. Et il s'est réfugié dans des buissons un petit peu sur
ah
la
oui.
colline. Et voyant cette fois-ci la milice arriver, il s'est poignardé.
Il a préféré...
Pour ne pas parler.
Oui. C'était la terreur
voilà.
de parler quand même. Parce qu'une fois qu'on était
voilà.
sous le joug des miliciens...
Ou des Allemands.
Et
voilà.
Ou des Allemands, c'était
et,
terrible.
Surtout que là, ce n'était pas des Allemands, c'était des Russes. Hein.
Ah
ouais,
oui.
C'était les Cosaques qui avaient été détournés par les Allemands pour rentrer dans la Wehrmacht.
Alors, bon. Ça, oui.
Donc c'était des gens qui portaient la chapka et l'uniforme allemand.
Ah oui.
Hein. Et ces gens-là, il s'est poignardé pour tenter de se suicider. Et donc, grièvement blessé, les miliciens l'ont quand même amené à l'hôpital de Bourg, à l'Hôtel-Dieu.
À l'Hôtel-Dieu, ah oui. Ah, Bourg, d'accord.
Voilà. Et à l'Hôtel Dieu, la bonne sœur qui s'occupait de ses soins, parce qu'il était en fin de vie,
il était agonisant,
même, hein, agonisant, lui a demandé « Mais donne-moi donc ton nom pour qu'on puisse prévenir quelqu'un. »
Oui, oui.
Et il a répondu « Popeye
». Son surnom, en fait.
Popeye. Ouais, voilà. Ouais. Et on n'a jamais su qui c'était. On a su, nous, après avec les matricules et puis compagnie, mais on n'a jamais su. Voilà. Alors, il y a une stèle qui est à la sortie de Neuville, après le pont, qui est dédiée à Baril et, puis, et d'autres, et Gangloff, Bernard.
À Popeye.
Voilà, à Popeye.
À
voilà.
Popeye.
Voilà. Donc voilà un peu la... Mais alors, ce n'est pas le seul fait d'armes. Hein, le vrai, véritable fait d'armes des enfants de troupe. Alors, je dois préciser qu'il y avait une partie de ces enfants de troupe qui se trouvait dans un camp à Prié et un autre qui se trouvait sur la colline à Druya, en pleine forêt.
Ah oui.
Voilà, où j'ai fait mettre une stèle, d'ailleurs, aussi.
C'est vrai.
Pour se souvenir de ça. Mais je vous invite à venir
mais j'irai,
la voir.
Mais allez. Bien évidemment, j'irai.
Alors,
j'irai.
C'est jeudi. Ben, il faut y être.
Ah ben, j'irai.
Alors, parce que le jeudi, on fête justement, on honore toujours nos morts du 6 juin 1944. Pourquoi ? Parce que le 6 juin, ces enfants de troupe avec les maquis de lin et surtout aussi sous le guide des cheminots de la SNCF.
Ah, ils étaient importants.
Faut pas les oublier.
Ils ont été importants, oui.
Faut pas les oublier. Et ces gens-là, qui étaient pratiquement tous résistants, bien entendu, hein, les cheminots, avaient voulu faire...
Un coup d'éclat,
mais intelligent.
Oui.
Ils souhaitaient saboter toutes les locomotives qu'il y avait sur la gare de triage.
Alors, ça s'est passé en Berrieux. Alors, pourquoi cette gare en Berrieux ?
Pourquoi en Berrieux ? Oui. En Berrieux est une très importante, je crois, une des plus grandes. C'est un nœud ferroviaire.
D'accord.
Qui est sur une ligne importante, qui est Mâcon et Paris et puis compagnie. Mais Mâcon, en Berrieux, Modane et l'Italie.
Et l'Italie, d'accord.
Voilà. Et en Italie, les troupes allemandes... bien qu'elles reculèrent pendant assez longtemps, pendant de longs mois, étaient encore relativement puissantes et essayaient d'arrêter les Américains, les Français, les Anglais qui luttaient contre eux, qui montaient vers le nord. Et les cheminots, fort, fort intelligemment, ont voulu, pour une deuxième raison, faire un coup d'éclat sur la gare de triage. Pourquoi ? Parce que nos grands alliés américains avaient compris l'importance de cette gare de triage et de ce nœud ferroviaire. Mmh. Et ils bombardaient.
Oui, mais...
Alors, ils bombardaient très souvent, mais alors à 10 000 mètres. Donc, la précision était, à l'époque, vous savez, ce n'était pas les petites bombes qui tombent à 1 mètre.
Moi, je sais quelque chose, parce que mes parents ont eu leur maison bombardée, comme ça.
Et,
parce qu'on habitait à côté de...
Et ils créaient beaucoup de morts civiles, ce qu'on appellerait maintenant des morts collatérales.
Oui, c'est ça.
Et effectivement, il y a eu des écarts, des petits patelins, des hameaux qui ont été entièrement détruit.
C'est ça.
Par ces bombardements répétitifs. Et donc, on s'est dit, si on détruit la gare de triage, d'une façon ou d'une autre, les Américains ne viendront plus, parce que le travail est fait.
C'est ça.
Et c'est ce qu'on a fait. Alors,
c'est par protection, en fait.
Voilà. Alors,
il fallait,
bien sûr, les cheminots, ils connaissaient leur travail, ils connaissaient les locomotives, ils connaissaient beaucoup de... C'était des véritables professionnels.
Hein. Oui, c'était leur métier.
C'était des grands, grands.
Oui.
Et patriotes, tous.
En plus.
Donc, ils se sont dit, oui, mais nous, on ne peut pas le faire non plus parce qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas les explosifs, on n'a pas
ces choses-là. Il leur fallait des moyens.
Voilà.
Il leur fallait des moyens.
Donc, ils ont pensé aux maquis de lin, bien entendu.
Ils les ont contactés.
Bien entendu, mais ils se parlaient, de toute façon.
Ah oui.
Et les maquis de là, on s'en dit, mais on a une troupe à notre disposition, on va les utiliser. Et les jeunes sont pleins d'allants, pleins de... Ils n'ont pas peur du danger,
c'est
les trois quarts, parce qu'ils l'ignorent. Ils se sont dit, on va utiliser les enfants de troupe. Et donc, le soir du 6 juin, dans la nuit du 6 au 7... N'oublions pas une chose, c'est que ces gens-là ignoraient le débarquement en Normandie.
Ouais, ils savaient
ils ne savaient pas qu'il avait eu lieu.
Oui, il n'y avait pas de communication.
Ah, il n'y avait pas France Info.
Ouais, c'est ça. Oui, alors, plus tous les,
voilà.
Tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça.
Il n'y avait pas tout ça. Alors, ils ignoraient ça, mais malgré tout, donc, dans la nuit du 6 au 7 juin, ils ont pénétré dans la gare de triage et sur l'indication des cheminots, ils ont saboté chaque fois par explosif une pièce d'une locomotive, mais toujours la même.
Parce que c'est une pièce très importante.
Oui, pour pas qu'on puisse après interchanger entre locaux.
C'est ça.
C'était toujours la même qui était... Le résultat, 52 locomotives, voilà, plus une plaque tournante, plus des... Le lendemain, c'est les cheminots eux-mêmes qui l'ont fait, ils ont fait sauter les ateliers.
Ah. En plus, voilà. On ne pouvait pas réparer, donc voilà. On ne pouvait plus réparer.
Ce qui a paralysé la logistique, comme je vous disais, Mâcon, Ambérieu, Modane, l'Italie, et l'Italie jusqu'au centre de l'Italie, plus rien n'est arrivé, d'accord. Ni vivres, ni munitions.
Ah oui. Oh, les pauvres Allemands.
Donc, le résultat était, donc, Kesselring, qui était le commandant en chef en Italie, eh ben, il s'est retrouvé à devoir reculer, parce qu'il n'avait plus rien.
Il ne pouvait pas, il pouvait plus avancer, donc il reculait. Plus,
voilà. Alors, si vous voulez, le succès est total, parce que d'une part, on a porté un coup fatal aux Allemands, désorganiser complètement le système de leur logistique.
Le système ferroviaire.
Et on n'a plus eu de bombardement américain.
Oui.
Voilà. Parce que nos amis anglais savaient bombarder, mais pas les Américains. C'était un tapis, toujours, partout. Donc, voilà. Et cette gare, elle a été inopérante jusqu'à la libération.
Ah oui.
Oui, voilà. Et. Les enfants de troupe, après, ont été réutilisés. Alors, justement, ce qui est important à savoir, c'est que les Allemands n'ont pas fait de représailles.
Parce que c'est ce que j'allais vous dire.
Mais pourquoi n'ont-ils pas fait de représailles?
La plupart du temps, il y avait forcément des représailles.
Parce que le travail était si opérationnel et si précis qu'ils ont pensé que c'était des parachutistes anglais.
Ah, ils ne pensaient pas que ça venait de la résistance française.
Ils ne pensaient pas.
Ah ouais.
Et surtout pas des enfants de troupe.
C'était trop fin.
C'était trop fin, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir, parce que les enfants de troupe ont pu frapper après à Meximieux.
Ah oui.
À la Valbonne.
Oui.
Hein, un petit peu de partout. Et la résistance a pu prendre...
Elle s'est étoffée un peu.
Elle s'est étoffée, elle a pu prendre pied aussi.
Hein. Ah oui.
Alors, il y a eu un drame terrible qui a eu lieu à la Valbonne, où 11 de mes camarades anciens ont été tués par un obus qui est tombé sur un hangar. Et sur un hangar où ils récupéraient leur sac à dos.
Les pauvres.
Ouais, vous voyez, et ils sont morts bêtement, j'allais dire, mais bêtement. Non, c'est
oui,
la guerre.
C'est l'effet de guerre, hein, ça.
C'est
oui.
L'effet de guerre, voilà. Donc, voilà. Et une stèle est toujours aménagée pour les enfants de troupe au régiment, sur la place d'armes du 68e régiment d'artillerie d'Afrique.
C'est bien.
Voilà. Hein, vous voyez, c'est toujours la mémoire. Je reviens un petit peu à ma délégation générale du souvenir français.
La mémoire vive,
donc
c'est important.
C'est très important parce que c'est de l'histoire.
Oui, c'est le moment d'en parler en plus.
Voilà, et c'est le moment d'en parler parce qu'on arrive à la 8e décennie.
Hein,
depuis
80 ans.
Depuis ces faits.
Mais
alors,
oui.
je vous dis une chose. Pas plus tard qu'hier, vous voyez, je suis allée voir en EHPAD Madame Lucette Goiffon.
Oui.
Madame Lucette Goiffon, qui était l'épouse de Goiffon, résistant, enfant de troupe. Qui a participé à ces événements dont je vous parle.
D'Ambérieu. Il a participé
d'Ambérieu.
Et
à tous, hein, tous les
oui,
gens. Et lorsqu'il est avant son décès, il avait demandé aux enfants de troupe, ou à l'association, que ses cendres soient répandues autour du monument de Neuville.
Ah oui.
Voilà. Alors, on n'avait pas trop le droit.
Bon, on l'a fait quand même un peu.
Le maire, il a fermé les yeux et on a pu, fort heureusement, répandre les cendres autour du monument. Et cette dame que je suis allée visiter hier, déposait, je lui tendais toujours la gerbe pour déposer la gerbe pour les morts, oui, pour la France, des enfants de troupes. Voilà. Et c'était son moment où elle pleurait, toujours.
Mais pour elle, c'était très émouvant.
Et c'est une dame qui est sensationnelle, qui a 94 ans, je crois.
Ah oui.
Toute sa tête, vraiment, qui participe à beaucoup de choses. Et j'ai eu le plaisir, je suis resté 3 heures avec elle, rien qu'à parler, de cette histoire, de tout ce que
on revit maintenant. Tout ce que son mari a vécu.
Voilà.
Et puis, par voie de conséquence, il lui a raconté quand même.
Je dirais, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément de gens célèbres qui ont été enfants de troupe. Déjà moi.
Youpi.
Bon. Je rigole. Mais des gens comme, je disais, Napoléon.
Oui.
Hein, je disais Madame Guyot, qui a été enfant de troupe à Autun.
Mais s'ils acceptaient les femmes?
Ah oui, en dernier.
Ah,
en dernier,
d'accord.
Je vous parle en dernier.
D'accord, c'est
récent. Qui a été leader de la patrouille de France.
Ouh.
Hein?
C'est pas n'importe quoi.
Ça s'est volé, tout
mais
ça.
Oui, ça vole très haut, d'ailleurs.
Ça vole très haut. Elle était commandant. Mais c'est toujours... Maintenant, c'est mixte. Hein. L'école d'Autun et d'Aix et des autres sont mixtes.
Mais il y a combien de temps? Il y a combien d'années? Parce que...
Maintenant, ça doit faire depuis 2000...
Ah oui, c'est récent.
2005, je crois.
Ah oui, c'est récent. Hein,
que les femmes sont admises. Ce qui pose parfois des problèmes, hein, je vous le dis.
Quels problèmes?
Dans les grandes écoles, d'ailleurs, y compris d'ailleurs à Saint-Cyr, il y a des bruits de choses qui sont inacceptables.
De harcèlement?
Non, inacceptable. Mais pas forcément un harcèlement qu'on pourrait penser physique.
Oui.
Mais
oui.
Un harcèlement parce qu'on n'aime pas les femmes. Parce qu'on est dans un univers...
Trop masculin.
Vous voyez, j'en parle librement parce que c'est quelque chose qui est dans les mains du commandement. Donc, je suppose qu'il y a suffisamment de sérieux pour s'en occuper.
Oui, oui,
hein,
oui.
Mais bon, dans les écoles d'enfants de troupe, non. Non.
Ils sont trop jeunes.
Ils sont trop jeunes. Et puis, je dirais, les jeunes filles, maintenant, ont beaucoup de points communs avec les garçons aussi.
Puis en fait, le problème, c'est que depuis tout le temps, ils sont à l'école ensemble.
Ils ont été à l'école ensemble depuis longtemps.
Ce qui n'était pas le cas. Non, il y avait l'école des filles et l'école des garçons.
Oui.
C'était bien séparé.
Et
on ne se retrouvait ensemble qu'en faculté.
C'est vrai ce que vous dites.
Ah ben oui, mais c'est ça, mais bien évidemment.
Alors, on a eu donc la Madame Guyot. On a eu également le général Éric Irastorza, qui a été chef d'état-major des armées et qui sort d'Autun.
Aussi.
Un homme formidable. D'ailleurs, je vous ai remis un article qui est écrit par lui et qui parle de son expérience, qui parle des enfants de troupe. Et c'est quelque chose de très mesuré, de très pondéré.
Il y a tout son parcours.
Non, il n'y a pas son parcours, parce que non,
son parcours est un parcours
de guerre.
Mais son parcours, ce qu'il a vécu. D'enfants de troupe.
Ah oui, d'enfants de troupe.
D'accord, voilà.
Ah, ouais. C'est quelque chose... Vous savez, les enfants de troupe, c'est quoi? C'est une école effectivement militaire. Hein, c'est militaire. Vous savez, les casernes comme à l'époque, bon, on est dans des chambrées, etc. Sauf qu'il y a maintenant un petit peu des pupitres pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ses études.
Réveiller dans meilleures conditions.
Oui. Mais nous avons des professeurs qui sont de l'éducation nationale, d'ailleurs.
Qui viennent,
Qui sont là et puis qui n'ont pas très envie de partir.
Parce qu'ils sont privilégiés.
Ils sont privilégiés, bien entendu. Hein, donc, la discipline qui règne, ce n'est pas une discipline de bataillon d'Afrique, non plus.
Oui, ça n'a plus rien à voir.
Parce que vous savez, on est entouré de nos chefs sont les chefs de section sont en général des sous-officiers, donc des gens qui connaissent bien l'âme humaine. Hein. L'armée française, c'est... La base, c'est le sous-officier.
Ah
sans ça, elle ne tiendrait pas. D'ailleurs, regardez l'armée russe qui n'en a pas. c'est une catastrophe.
Oui, oui.
Voilà. On envoie des gens comme ça.
Bon. Là, bon, bon, pour eux, c'est la chair à canon.
Les sous-officiers sont des gens humains qui connaissent
d'accord,
l'homme.
Hein. Oui.
Donc, si vous voulez, les trois quarts, bien entendu, sont des pères de famille. Donc, ils ont des enfants.
Ils savent ce que c'est.
Ils savent ce que c'est, donc ils ne vont pas maltraiter des jeunes.
Voilà,
hein.
Oui, oui.
Et puis, vous connaissez les jeunes de maintenant, ils sont potaches. Hein. Si on peut, nous-mêmes, moi-même, vous voyez avec tout le sérieux que j'ai, on lançait des bombes à eau sur l'adjudant quand il rentrait dans les vêtements, dans les bâtiments.
Oui. Oh ben les bombes à eau, ça a bien existé depuis longtemps.
Oui, alors on n'était pas très malins parce qu'on fermait les volets.
Mais c'est ça, oui.
Mais ils savaient après. Bon, alors après, on avait ce qu'on appelait un PSTS.
C'est quoi ça?
Alors, on avait. Parce que l'armée adore les raccourcis.
Ah, hein, oui.
Alors, c'était privation de sortie, travail surveillé. Oui, aïe, aïe.
Bon, quand on prenait un truc comme ça derrière les oreilles, bon,
mais on savait à quoi s'attendre. D'ailleurs, la chanson, elle le dit.
D'accord.
Elle dit que on se taisait parce que finalement, on aurait bien mérité deux punitions et d'une. On remerciait le bon Dieu, c'est marqué.
C'est bien.
C'est une belle chanson d'ailleurs, mais c'est une chanson de potache.
Oui. Hein, voilà. On va faire une petite pause.
Oui, on fait une petite pause avec plaisir.
Avec de la musique.
Voilà, vous avez...
Alors, vous pouvez nous dire ce que c'est que ce chant?
Alors, ce chant, il date du siècle 19e.
Oui.
Et il est commun à toutes les écoles.
Les enfants de troupe chantent cette chanson.
Que les enfants de troupe chantent ce chant. Et vous voyez bien, d'après les paroles, que c'est un chant de potache.
C'est léger, mais bien sûr. Ce
n'est pas un chant militaire.
Oui, c'est ça. Voilà.
Après, on écoutera la marche, qui est militaire. Mais là, non.
Non, mais c'est bien d'entendre...
Voilà. Alors, effectivement, en déplacement, parce que vous savez que dans l'enceinte d'une caserne, les gens qui y sont, ils marchent au pas.
Oui.
Alors, on marchait au pas pour aller au réfectoire.
Ah oui.
Pour en sortir.
Ah oui.
Bon, etc., etc. Et bien entendu, on a l'habitude très souvent de chanter un chant militaire qui plaît à la section.
D'accord.
Voilà, donc ça peut être un chant de para, ça peut être un chant de marin, ça peut être n'importe quoi.
Mais dans quelle occasion vous sentiez ça?
Ben, comme n'importe, ça, pour, oui. Parce qu'on est ensemble.
D'accord. Ah, le fait d'être ensemble.
Le fait d'être ensemble.
Oui, hein.
Et le fait de marcher au pas, c'est les Romains qui ont inauguré la marche au pas. Mais bon, ça permet de se sentir en cohésion aussi. Vous savez, les rangs, c'est coude à coude.
Serrer les rangs, oui, c'est ça.
C'est quelque chose, voilà.
Oui.
Alors, je dirais, on a connu, moi-même, je n'ai connu aucune misère. Aucune.
Ah oui.
Sinon que, bon, il y a la discipline qu'il faut accepter. Bon, on avait des vestes bleues. Hein,
ah oui, parce que vous portiez des,
oui,
des
oui,
tenues.
Oui.
Ah oui.
On portait des tenues, bien
ah oui,
entendu.
Ah oui.
Et chemise bleue, cravate noire. Hein.
D'accord.
Et on avait donc des vestes bleues avec des boutons dorés.
Mmh.
Et les boutons, ils devaient rester dorés, même s'ils oxydaient.
Ah oui, alors c'était pas facile.
Voilà. Alors on avait ce qu'on appelait à l'époque, on avait une patience. Alors une patience, c'était un morceau de bois percé pour faire rentrer les à l'intérieur de ces trous, pour faire rentrer les boutons et ne pas salir la veste avec le nettoyeur.
Ah oui, pour pouvoir nettoyer les
pour
boutons.
Pour pouvoir, voilà.
D'accord.
Alors on nettoyait avec ça, on frottait et puis on avait les boutons vraiment bien dorés. Avec ça, on pouvait sortir.
Ah oui.
Donc on avait toujours le gentil adjudant-chef de permanence qui attendait à la sortie.
Qui vérifiait
s'il manquait pas un bouton, s'il manquait pas. Alors quand il manquait un bouton qu'on n'avait pas le temps de le coudre, comme c'était des boutons avec un anneau derrière,
vous passiez.
On mettait une allumette pour la tenir.
Pour tenir. Bah oui.
Mais chacun avait ses petits trucs.
C'est ça, voilà.
Et voilà, donc on était. Mais sinon, on avait la cérémonie des couleurs.
Ouais,
hein,
oui, c'est ça, oui.
On avait...
Toutes les armées, là.
Toutes les armées, oui. On avait un piquet d'honneur armé avec, qui portait le drapeau de l'école, et puis etc., oui. etc. Alors, à ce sujet-là, écoutez, je ne résiste pas à vous raconter...
Une petite anecdote
qui est bien risible et qui dénote bien de l'ambiance qu'il y avait. Il y avait un jour la visite du général qui commandait la région. À Aix.
Oui.
Et ce général, bon, il se faisait un petit peu attendre. Et puis, vous connaissez un petit peu les habitudes de l'armée. Le général, la visite, elle est à 10h, donc réveille à 4h.
Ah oui,
hein,
il fallait qu'on soit prêt.
Voilà, il fallait qu'on soit prêt, qu'on soit propre, qu'on ait les oreilles lavées, les ongles propres. Et on montrait les ongles.
Les chaussures bien cirées.
Puis,
les boutons bien lustrés.
Donc, puis alors, on marchait un petit peu au pas, puis on revenait à la place, puis on attendait, repos, garde à vous, et puis etc. Et on avait placé le drapeau de l'école dans un type de reposoir, si vous voulez, en tube, et qui était incliné pour, pour attendre le général. Et là, on voit un petit chien bâtard qui arrive, qui venait de nulle part, il venait de l'extérieur, il n'était pas à nous.
Vous ne l'aviez pas invité.
On ne l'avait pas invité. Il arrive, il sent le drapeau.
Il est allé pisser dessus ?
Il est allé pisser dessus. Alors, évidemment, tout le monde...
Oui.
Tout le monde riait.
Bien sûr.
Personne ne disait rien, bien entendu.
Oh mon Dieu.
Et le bon colonel, je me souviens, c'était un homme très agréable, très cultivé, le colonel Magny. Je cite un nom pour une fois. Il est décédé, le pauvre. Et qui tend le drapeau au général... Et le général qui a embrassé le drapeau avant de le redonner à un jeune. Et c'est quelque chose qui m'est resté parce que
c'était
risible.
C'était l'image un peu particulière.
Vous connaissez les mauvais copains, ceux des rangs de derrière, ils vous font rire, mais vous, devant, vous n'avez pas le droit.
Vous ne pouvez pas. Ouais, ça, c'est, dans les écoles, c'est un peu ça. Hein.
C'est toujours comme ça. Alors voilà, pour vous dire qu'on n'était pas des gens...
On était très potaches.
On était très potaches et puis on n'avait pas, on n'était pas martyrisés. Hein,
non, c'était
pas,
non.
On avait beaucoup de sorties d'ailleurs. Nous,
ah oui.
On sortait
vous alliez
beaucoup.
Où dans ces cas-là?
Dans des musées, on allait...
Ah
on
oui.
est allé voir le port de Marseille, on est allé...
D'accord.
Non, il y avait beaucoup de choses. On n'était pas laissés à l'abandon, hein, il faut pas croire. Et,
mais vous aviez une ouverture d'esprit en fait,
oui.
pas uniquement basée sur le militaire
ah non. Ah, pas
absolu.
Du tout.
Non, mais c'est
que...
ça. Vous avez une ouverture sur la vie, quand même.
Bien entendu,
ah oui,
bien
ouais,
entendu.
Ouais.
De toute façon, moi, je suis allé un peu plus loin pour le concours hein, de,
oui.
des grandes écoles.
Oui.
Mais on avait un programme qui était...
Oui, alors vous appreniez quoi dans ces écoles
ah
c'est
ben,
ça, voilà.
Non, c'était le programme Cagne-Hippocagne.
D'accord. Ah ben oui. Normal.
Comme tout le monde. Voilà.
Donc, pas comme tout le monde.
Oui,
non.
pas comme tout
comme
le monde, mais bon, je dirais, on avait quand même cette culture et cette ouverture d'esprit. Et on avait surtout des professeurs qui pouvaient évoluer dans la discipline avec un système qui était propre aussi aux écoles d'enfants de troupes et qui était, je trouve, un moyen sensationnel auquel devrait peut-être réfléchir notre propre éducation nationale. Pourquoi ? Parce que les profs avaient la faculté, alors qu'ils soient profs d'allemand, d'histoire, géographie, français,
quelque
etc.,
matière,
tout ce qu'on avait,
quelle que soit la matière,
hein,
oui.
ils avaient la faculté en fin de cours, parce qu'en fin de cours, évidemment, on se levait.
Oui.
Et là, ils disaient, toi, toi et toi, vous restez. Ah !
Ils les avaient déterminés comment ? Donc toi, toi et
comme
toi.
Ça.
Ah oui, au hasard.
Au hasard.
C'était simplement au hasard. D'accord.
Mais ils devaient faire toute la liste, certainement,
ah oui.
à la fin de l'année.
Chacun son tour.
Et là, on était donc bloqués, on ne sortait pas dans l'interclasse,
oui.
mais il présentait sa casquette ou son chapeau et on tirait un sujet. Mais pas un sujet du cours du jour, un sujet qui pouvait dater du mois d'octobre quand on était au mois de juin.
Oui, bah oui. Pour savoir si vous aviez bien retenu.
Ce qui expliquait qu'il fallait déjà bien écouter en classe
oui.
et surtout bien réviser.
Bien réviser.
Et avec ça, eh ben, je vous assure, pour l'histoire, par exemple, pour l'histoire, parce que c'était au programme d'Hippocagne,
ah oui.
je peux vous dire que je vous raconte toute la guerre de 14-18.
Et dans l'ordre.
Dans l'ordre, et avec les noms des généraux. Et tout.
Ah oui, c'est ça. Hein
Donc,
oui.
vous voyez, c'est quelque chose qui est resté parce qu'on a eu ce privilège d'avoir des profs hors du commun. Qui aimaient ce qu'ils faisaient. Hein, et qui nous aimaient bien aussi. Parce qu'ils avaient la discipline. Et on entendait les mouches voler dans les cours.
Ben, c'est comme ça qu'on apprend.
Non, c'est pas tout à fait maintenant.
Ah c'est un peu plus de brouhaha.
Voilà. Donc on avait ce privilège d'être dans des écoles. Allez, je peux...
Oh, c'était un peu élitiste, quand
c'est,
même.
Voilà.
Oui,
mais bon,
quand même.
C'est,
oui.
c'est toujours...
Oui.
C'est, quand on parle d'élitisme, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas.
Alors, non, c'est pas
ça
ce
me
que ça
gêne
veut
un
dire.
Petit peu.
C'est pas, moi, je pense pas que c'est ça que ça veut dire.
Voilà.
Ça veut dire que c'est des gens qui ont travaillé
voilà,
pour en arriver
voilà,
là.
Voilà.
C'est ça,
Et
surtout.
Alors, bien entendu, il y a aussi une chose que je me dois l'honnêteté de dire, c'est que pour entrer maintenant dans les écoles de
oui,
ce type...
Oui.
Il y a un examen.
Ah oui.
Voilà, déjà un examen des notes du lycée
du
précédent.
Niveau, du niveau, oui, c'est ça.
Alors, si vous arrivez avec un 3 de moyenne, un peu oui. de chance que vous soyez pris par l'armée. Hein. Mais d'ailleurs, ça se voit partout, parce qu'on parle de l'armée. Mais ça se voit partout, dans tous les corps de métier. Un chef d'entreprise, s'il a affaire, pardonnez l'expression, à un gogol, il ne va pas le prendre.
Bien évidemment.
Hein oui. Il préfère des gens qui connaissent leur métier ou qui ont envie d'apprendre.
Voilà, c'est ça. Ils ne connaissent pas forcément alors, le métier, mais ils vont rentrer. Voilà, il a compris.
Ça, oui. c'est resté quand même dans le domaine militaire qu'on voit après. Vous savez, des corps qui sont des armées qui sont très techniques, comme l'armée de l'air, par exemple,
oui.
et de l'espace maintenant. Vous savez, les gens qui rentrent là-dedans sont appelés à être de grands techniciens, qu'on va d'ailleurs pouvoir utiliser dans le civil.
Oui.
Hein Vous voyez, donc c'est quelque chose d'important. Donc la marine, c'est pareil. Ce sont des corps, vous avez des plombiers, vous avez des spécialistes de l'hydraulique, vous avez des spécialistes du nucléaire, vous imaginez un peu le nombre de spécialités qu'il y a.
Maintenant, l'armée, alors, elle demande beaucoup de
voilà, corps d'état. Donc si vous voulez, ces écoles militaires sont la première marche.
Oui.
Vers un engagement à l'armée éventuelle qui va faire d'eux des gens, des gens disciplinés, des gens patriotes. Ils ont appris la discipline, c'est tout. Mais je veux dire, ce n'est pas une discipline, moi je peux vous dire, elle était librement consentie. On savait que. À 5 heures du matin, il fallait se réveiller. C'est tout.
C'était l'habitude.
Voilà. Puis après, on partait en survêtement, en chantant, en rang, pour aller boire le café. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de gênant.
Oui, puis c'était l'époque aussi.
Maintenant, ils le font encore, ça.
Les gens sont plus dociles dans ces écoles-là.
Oui,
peut-être.
Je ne sais même pas.
Il n'y a pas de réticence quand même. Bon. Parce que pour rentrer dans l'armée, il faut quand même avoir un esprit bien structuré.
Il faut aussi se dire que beaucoup étaient issus de familles militaires.
C'est ça, voilà.
Hein, donc ça arrange un petit peu les choses. Hein, on leur apprend des choses déjà à la maison.
Ils ont l'habitude.
Ils ont un peu l'habitude. Mais c'est vrai que ça pourrait être des bons exemples pour l'éducation. En général, de dire, il faut que dans la discipline, et je dirais lâcher en lit, on ne peut pas exercer son métier.
Oui.
Ce n'est pas possible. Oui. Alors, c'est l'excuse que je donnerais peut-être à l'ensemble des enseignants. C'est très difficile, c'est un métier très difficile. Et je le vois parce que j'ai connu les deux.
Oui.
Hein, j'ai connu les deux, donc je peux vous faire la différence, et je sais à quoi on arrive.
Oui.
Hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on retient tout.
On n'oublie pas. Oui, c'est vrai.
On n'oublie pas.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est rentré, voilà.
Hein ?
Voilà, c'est. Mais si vous voulez, en cours, vous pouvez lever la main pour dire j'ai pas compris ça, ou il y avait absolument.
Oui, il n'y avait pas de barrière de ce côté-là.
Aucune barrière. Et alors, à côté de ça, ce qui était très bien, c'est qu'on avait des répétiteurs, c'est-à-dire comme des précepteurs, qui étaient des appelés du contingent, à l'époque ça existait, et qui étaient. Ou en voie de devenir prof, ou des professeurs qui étaient arrivés à la fin de leur sursis. Mais c'était des gens aussi.
Ils pouvaient aider les jeunes.
Mais oui, ils aidaient les jeunes.
Ça, c'est bien.
Et nous, à notre tour,
en
classe préparatoire, par exemple, on formait des jeunes de sixième.
C'est ça, voilà. Oui.
Voilà, le participe passé, et tout ça, on les prenait le samedi.
Ah, en plus, d'accord.
Voilà. Et on avait chacun nos trois ou quatre gamins, et on leur faisait des cours à part.
Ceux qui avaient quelques difficultés, en fait.
Ceux qui avaient un petit peu de difficultés, qui nous étaient signalés par le commandement.
Voilà.
Donc on les prenait à part, et l'avantage, c'est qu'on avait la même tenue d'eux.
Ça, c'est ça, oui.
Ah, donc, la barrière, elle était franchie pour eux.
Ça, oui.
Donc, c'était aussi quelque chose d'important.
L'écoute était plus facile.
L'écoute était plus facile.
D'accord. Hein. Oui.
Alors, on avait ce qu'on appelait à Aix, on avait la caserne Ruibé, c'était les petits. Donc, la caserne Ruibé.
Ils avaient quel âge, les petits, là, à ce moment-là?
Sixième, ils avaient...
10, 12
ans. Avec leur béret, et puis marcher au pas aussi.
Ah oui, d'accord.
Eh oui, mais c'était... Il y avait quelque chose de chaleureux là-dedans, parce qu'il y avait cette communauté et cette solidarité entre les membres de ces écoles, qu'ils soient en classe préparatoire en sixième, il y avait ça.
Parce que c'est le même parcours, en fait. Hein. Donc,
Après, c'est le même parcours.
Oui, c'est ça.
Alors maintenant, il faut aussi avoir l'autre honnêteté de dire que... très peu maintenant de ces jeunes, et vous comprendrez pourquoi, très peu de ces jeunes choisissent l'armée à la fin de leur cursus.
Ah !
Très peu. Ça doit être de l'ordre de 10 à 15%. Pourquoi ?
Parce qu'il n'était pas le cas avant.
Ah non, à l'époque,
tout le monde
90%
dans
l'armée. Mais c'est les jeunes de maintenant, formés comme ils le sont, c'est-à-dire bien, ils ont mieux à faire.
Ah oui.
Eux, ils sont sûrs de réussir en fac ou dans des écoles professionnelles ou autres, vous comprenez ? Oui. Donc, ils sont attirés par ça, par aussi une forme de liberté, il faut aussi reconnaître. Hein. Et puis, peut-être de projets de carrière.
Oui, c'est ça, oui.
Projets de carrière, voilà. Alors, voilà, donc, ces gens, ils réussissent aussi très bien après dans le civil, bien sûr.
Parce qu'ils ont des bonnes bases.
Et voilà. Et ils sont recherchés.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Voilà. Et ils sont recherchés également grâce aussi un petit peu à l'association qui peut un peu pousser.
D'accord.
L'association des anciens enfants de troupe. 166 rue Lafayette, 75-010 Paris.
Est-ce qu'on peut connaître votre parcours ?
Le parcours ?
Oui.
Non.
Non, vous ne voulez pas nous parler de votre parcours ?
Non, je suis tombée après dans un tonneau qui s'appelait le souvenir français.
Ah oui, non mais avant, vous avez fait ça.
J'ai fait l'armée, j'ai fait tout ça, j'ai quitté tôt parce que j'avais d'autres
objectifs.
Et j'ai vu qu'il était très très intéressant, ça me passionnait déjà de tomber dans l'assurance.
Ah, d'accord.
Et dans l'assurance internationale.
D'accord.
Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans, ça m'a beaucoup plu. J'ai connu des gens qui étaient aussi extraordinaires. Et j'y suis rentré grâce à un ancien enfant de troupe aussi.
C'est ça. On est toujours relié avec les enfants de
troupe. On est toujours relié. Voilà. Alors, je vous donne une dernière petite anecdote. C'était un moment où j'avais été cambriolé. Et on m'avait volé tous mes papiers. Carte d'identité, permis de conduire, etc. Et le permis de conduire, j'en avais vraiment une grande nécessité.
Bien sûr.
Donc, je suis allé en préfecture. Bon. Alors, je vois une fonctionnaire qui était là, qui était au demeurant très gentille, et qui me dit, voilà, tous les papiers que vous avez à remplir pour obtenir votre photo d'identité.
Renouvellement de tous les papiers, oui.
Bon, et puis derrière elle, je vois circuler un monsieur qui me regarde. Il me montre du doigt, parce qu'il voyait...
Très joli.
Il voyait mon insigne.
Ah, voilà.
Il dit...
Il a reconnu.
T'es un AUTS, parce que chez nous, on dit AUTS.
Ah oui.
Apostrophe S, qui est anglais. Oui. T'étais où ? À Aix ? Moi aussi. Qu'est-ce que tu veux ? Un permis de conduire. À partir du moment où j'ai dit un permis de conduire, j'ai pas attendu un quart d'heure avant de l'avoir.
Ah ben voilà. Faudrait nous prêter votre pins.
Voilà, c'est une anecdote.
Qui
est marrante, parce que c'est cette
solidarité
qui reste.
Qui perdure. Oui,
hein,
oui.
Et vous pouvez... j'ai parlé à Ira Storza et à d'autres généraux. On se tutoie. Mais je veux dire, il n'y a pas de lien hiérarchique.
C'est une forme de fraternité, quand
C'est une fraternité.
Oui,
fraternité, c'est pour ça que je vous parlais de sale race, parce qu'il y a des gens qui m'ont accueilli dans des régiments en me disant « Ah, c'est la sale race !»
Ah oui.
Et oui, parce qu'ils voyaient l'insigne qu'on portait.
C'est ça.
Alors, ils se disaient « Ouh, ça va être des durs, parce que d'abord, c'est des rebelles.
Ah. »
Ils ne se laissent pas tout dire. Et il ne faut pas oublier une chose, quand on arrive dans une école... militaire, vraiment, pour la formation, nous, on a déjà quelques années de formation militaire, donc on n'a plus rien à apprendre.
Oui, c'est ça.
Et ça, ils n'aiment pas.
Ah, oui. Ils sentent leur manque.
Ils sentent, c'est des choses qui sont... C'est comme si je vous disais, on appelle un marin de la marine nationale, on l'appelle ça, dans l'infanterie, on appelle ça un chi dans l'eau. C'est comme ça.
Oula.
Et puis, on n'aime pas les aviateurs quand on est para, parce qu'ils nous mettent dehors d'un avion.
Ah
vous
oui,
voyez, il y a plein de choses comme ça, mais c'est de la fraternité.
Je ne sais pas.
Non, ce n'est pas de la méchanceté. Jamais.
D'accord.
Voilà, je pense... alors, il y a encore une dernière chose que je voulais vous dire.
Monsieur.
Il y a un célèbre tableau de Manet.
Ah oui.
qui représente un enfant de troupe.
Ah oui,
il est, avec le fifre.
C'est celui. Ah d'accord.
Avec
oui,
le
oui,
fifre.
Il est connu.
Qui est connu, que j'ai là.
Oui.
Vous voyez, ça c'était la tenue des enfants de troupe.
Ah, voilà. Le gilet
bleu et le pantalon rouge, évidemment. Hein. Et ça, c'est resté. Donc Manet a fait
un tableau.
A fait un tableau
est...
pour les.
Alors enfants. Il est où? Il est à Orsay, non?
Je crois qu'il est à Orsay, oui.
Si... Je l'ai vu ce tableau.
Oui, il doit être à Orsay. Ouais. Et donc voilà, ça c'est les... Et alors, et un autre grand homme,
hein,
je l'oubliais.
Oh, quel malheur!
Victor Hugo.
Mais oui, c'est vrai.
Il a été enfant de troupe.
Ah oui.
Voilà.
Et je n'avais jamais entendu parler.
Eh
bien,
si, c'est important.
En fait, même dans ses écrits, il n'en parle pas.
Voilà, ouais. Mais non, il n'en parle pas. Mais on est très discret. Vous voyez, je vous ai répondu non. Non, parce que je ne vais pas mettre mon parcours en exergue.
Oui, mais moi,
ce qui m'intéresse,
envie de savoir.
Ce qui mais je vous raconterai tout. on est des gens qui sont humbles parce qu'ils sont passés par là. Mais c'est ça qui est important pour eux, c'est pas le reste.
C'est bien l'humilité. Vous avez raison.
Et vous lirez dans l'article du général Irastorza quelle humilité il a. Hein, parce que la première chose qu'il dit, et c'est tout son intelligence, c'est pour ça qu'il est arrivé comme chef d'état-major des armées, il dit, je tiens d'abord à préciser, c'est le début de l'article, qu'il y a une différence énorme entre l'enfant de troupe et l'enfant soldat dont on parle. Parce que l'enfant soldat, c'est un tueur.
C'est pas pareil. Hein. Ben, hein, oui.
C'est les gamins de 10 ans en Afrique avec une Kalachnikov qui tue n'importe qui.
Oui. Hein.
Donc ça, non, c'est pas ça. Nous, on n'est pas formés à la haine.
Mmh.
On est formés justement pour être des gens qui savent discerner les choses, qui soient des gens cultivés. Vous savez, notre devise, c'était de l'école à Aix, ils s'instruisent pour vaincre.
Oui, mais pas pour mourir, pas pour tuer
les
autres.
Il y a instruction et victoire, ça va ensemble.
Oui.
Voilà. Donc vous voyez, ce sont des choses... Et lisez cet article, il est plein d'humilité, il est plein de modération. Et c'est un homme qui a appris beaucoup de choses dans sa vie.
Et pourtant, ça a été un soldat... Et souvent, c'est l'humilité qui manque.
Mais bien entendu.
Oui, c'est très important.
Alors vous savez, bon... J'espère vous avoir fait un petit...
Un joli tableau.
Un joli tableau de ce qu'étaient les enfants de troupe, de ce qu'ils sont toujours, d'ailleurs.
On demandera à la technique ce qu'ils en ont pensé.
Parce que j'ai quand même appris quelque chose, c'est que de temps en temps, ils vont fumer dans les toilettes, alors que c'est strictement interdit.
À eux aussi, oh mon Dieu, ils n'obéissent plus.
Comme on faisait nous.
Oh, bah, bien évidemment, il y a toujours un peu d'entorse.
Comme on faisait le mur aussi.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Vous n'étiez quand même pas des images complètes.
Hein. Non, pas tout à fait. Mais on savait faire la différence.
C'est bien.
Et on aimait nos chefs, parce qu'ils nous le rendaient.
Oui, c'est bien.
On a eu des vieux adjudants-chefs baroudeurs, dont un, qu'on appelait Tatave, il s'appelait Gustave.
Ah.
Tatave. Et Tatave, vous savez où j'en ai parlé? Avec mon voisin, c'était son oncle.
Oh, c'est drôle.
Mon voisin dans l'Ain.
Ah oui, oui.
Où j'habite, à Châtenay.
D'accord.
C'était son oncle. Et je lui ai montré la photo parce qu'il était...
C'était bien lui.
Bah oui, bien sûr. Et Tatave, il était à côté de nous en rang un jour du 11 novembre où on défilait.
Ah, oui.
Donc le Tatave, il était... il avait fait l'Indochine, il avait fait l'Algérie, enfin, tous les combats, c'était un baroudeur, il avait un placard, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des médailles, qu'il faisait pencher à gauche tellement il en avait.
C'était lourd.
Mais c'était un homme de grande qualité humaine, parce qu'il connaissait tout de l'homme. Et jamais il nous a martyrisés, jamais il nous a punis, tout était dans l'explication. Toi, tu as fait ça.
C'est comme ça qu'on arrive le mieux, d'ailleurs.
Voilà.
C'est pas,
il nous disait, son mot, c'était « t'as été un petit con ».
Voilà,
c'était la grosse injure.
Oui.
Et donc, après, mais on rectifiait. Et c'était un gars qu'on a adoré, Tatave.
Souvent, quand on a des profs,
et j'ai toujours
des professeurs un peu, qui ont beaucoup d'autorité, qu'on se souvient tout le temps.
Oui, on se souvient tout le temps. Non, mais c'est, j'espère vous avoir dressé un tableau. Si vous avez des dernières questions, il faut les poser.
Non, merci Denis, parce que sincèrement, je ne connaissais pas du tout cette histoire d'enfant de troupe. Et je pense qu'on en sait un petit peu plus grâce à vous.
Voilà.
Alors, nous allons écouter quoi maintenant, parce qu'on termine l'émission.
Alors, on va terminer l'émission. On écoute la marche des enfants de troupe et non plus le chant.
D'accord.
La marche qui est connue, puisque c'est joué en général par la garde républicaine. Hein, et par toutes les batteries fanfares des régiments, parce que ça donne bien la cadence pour le pied gauche. Donc vous allez écouter ça, le gros tambour, il donne...
Bien, merci Denis, merci
la technique. Merci à tout le monde de m'avoir écouté, de m'avoir supporté, surtout.
Merci beaucoup.
Parce que...
Merci Denis.
Voilà, bonne journée à tout le monde.
Au revoir, merci. Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.